D'ailleurs, il n'est peut-être pas utile que je me présente faisant un bref passage entre deux, entre les interventions d'aujourd'hui et les interventions de demain, entre des approches plutôt ancrées, m'ont-il semblé, dans une considération de la relation de l'individu avec les situations, et demain des approches qui prendront plutôt en considération les dynamiques collectives et les déterminations sociales. S'il faut en dire deux mots, je m'appelle Philippe Astier, ainsi que c'est inscrit fort opportunément sur ce bureau, et je suis professeur à l'Université de Lyon 2, ce qui, je suppose, justifie ma présence parmi vous ce soir. C'est sans doute parce que je fréquente depuis longtemps les analyses de l'activité, notamment le patrimoine qui a été présenté aujourd'hui par Pierre Pastré, et peut-être aussi parce que je connais fort peu de choses aux situations d'enseignement et que je me suis dit qu'au moins je ne dirais pas de bêtises en me gardant d'en parler. Donc, je vais partir, si vous voulez bien. Alors, j'ai pensé faire cette transition en deux parties, une première partie qui serait en quelque sorte très proche du modèle que j'ai essayé de m'approprier entre ce que Pierre Pastré nous a dit ce matin et puis les deux versions que j'ai pu entendre cet après-midi ayant participé aux ateliers conduits par Marie-France Barotte et Isabelle Vinatier. Ce qui me semblait être le lien entre tous ces temps, c'était la notion d'organisateur. Et l'adoption d'organisateurs m'intéressait, m'interrogeait, et donc, dans une première partie, je me propose, si ça ne vous lasse pas trop, de reprendre un peu, d'un autre point de vue, ces auteurs, de reprendre un peu ce qui nous a été présenté, pour essayer de caractériser, finalement, le modèle qui est aujourd'hui, je dirais, mis en circulation. Parce que ce qui me paraît intéressant dans le monde dans lequel nous sommes, c'est qu'il se présente à la fois comme étant un élément qui peut contribuer aux activités de recherche, pour comprendre l'activité, et aussi pour pouvoir construire, ajuster ou renforcer des dynamiques de formation. Alors du coup, je me suis dit, ça vaut quand même la peine de le travailler. Et puis parce que pour moi, il est relativement nouveau, et que dans le champ du patrimoine des analyses du travail, je crois qu'il est toujours intéressant de saluer l'apparition d'un concept ou d'une notion en voie de conceptualisation, parce que ça enrichit le patrimoine et que ça permet de travailler différemment, et que ce n'est pas si fréquent que l'on ait des notions nouvelles pour nous aider à travailler ces questions. Et puis la deuxième partie, eh bien, j'essaierai de mettre en ordre quelques réflexions, j'allais dire qui s'en éloigne de plus en plus, qu'à un point, vous verrez, je m'en arrêterai là, parce que d'abord il sera l'heure de dîner, et ensuite parce que je crois qu'on est à un point de rupture avec le modèle qui a été présenté, puis c'est entré dans autre chose, et ça n'aurait pas d'intérêt. Simplement, ce sera pour moi le moyen d'annoncer un petit peu ce que j'imagine de ce que sera la journée de demain. Donc, premier aspect, cette notion d'organisateur, comme étant finalement un bon outil pour analyser l'activité, et en l'espèce l'activité enseignante. Alors premier point, je partirai on a cité l'article de Gérard Vergniaud qui s'appelle « Au fond de l'action, la conceptualisation ». Si je ne me trompe pas, la formule est au début de l'article, dans la première ligne, Vergniaud commence en disant « Au commencement était l'action ». Alors, je crois que la façon dont je résumerai les choses, c'est d'abord l'importance évidemment cruciale de l'action pour le développement des apprentissages et pour le développement de ce qu'on pourrait appeler, d'une manière un peu générique, la professionnalisation. Alors, je reviens juste d'un mot, parce que c'est tellement rabattu qu'on trouve aisément à le détailler. C'est que si au commencement était l'action, l'action, elle a au moins deux caractéristiques que je voudrais souligner. La première, il y a une tonne de littérature là-dessus, c'est qu'elle est singulière, c'est-à-dire unique, parce que les situations sont singulières et parce que les sujets sont singuliers aussi. Et puis la deuxième, il me semble que la journée d'aujourd'hui insiste davantage sur la seconde, c'est qu'elle est fugace. L'action, l'instant de l'action, eh bien, le temps d'apprendre à vivre, il est déjà trop tard. Alors, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui me paraît très caractéristique là, et qui est très fondamental, puisque, notamment dans ce que présentait Isabelle Vinatier, par exemple, cet après-midi, je le retrouvais, l'action, elle a eu lieu. Elle a eu lieu, mais elle n'est plus là. Et que ça pose un problème majeur, me semble-t-il, parce que ça veut dire, ben, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ou on fait sans, ou on fait avec? Si on fait avec, qu'est-ce qu'on prend pour faire avec une action qui n'est plus là? Bien entendu, on va prendre des représentants, et ça pose la question de qu'est-ce qu'on va choisir pour ça. Et c'est moins sous l'angle méthodologique, me semble-t-il, qu'on l'a abordé aujourd'hui, que sous l'angle du statut des données qu'on prend sur ce point. Deuxième point, donc au commencement était l'action, et puis deuxième point, l'action humaine est organisée. Moi, il me semble que ça, dans le propos de Pierre Pastré, vous ne me le contesterez pas. Quand il dit l'action humaine est organisée, j'entends au moins deux choses. La première, c'est qu'elle n'est pas totalement aléatoire. S'il y a quelque chose qui résulte de l'organisation de l'action, c'est qu'un professionnel n'agit pas de façon purement aléatoire, au petit bonheur la chance, pour pouvoir construire quelque chose à partir des effets de son action. La deuxième, qui me paraît plus importante peut-être, c'est que dire que l'action est organisée, c'est dire qu'elle n'est pas totalement déterminée, me semble-t-il. C'est-à-dire qu'il y a à chaque fois une part que le sujet rejoue et que cette part est cruciale pour comprendre ce qu'il fait et qu'évidemment elle est cruciale dans la qualité de ses interventions. Organiser, cela fait écho à la notion de SCHEM chez Vergniaud, organisation invariante de la conduite pour une classe de situations données. C'est donc qu'il y a une stabilisation et on comprend bien que cela puisse faire ressource pour l'action future et que ce soit le résultat des expériences antérieures. Il me semble que ça n'est pas ni vraiment nouveau ni particulièrement difficile dans le patrimoine des analyses de l'activité. Il me semble qu'il y a quelque chose qui est intéressant autour de ça. C'est finalement comment passe-t-on des actions singulières, une myriade d'actions singulières qui constituent l'expérience, à une organisation de l'action. Autrement dit, comment est-ce qu'on passe de ce qui est « je fais ci, je fais ça, je fais ça, je fais ça, je fais ça, je fais ça » de ces rencontres successives avec la classe pour l'enseignant, de ces rencontres successives avec la situation de travail pour d'autres professionnels, de ces interactions successives qu'il peut avoir, c'est-à-dire la dimension de répétition et la dimension d'innovation chaque fois, comment est-ce qu'on passe à quelque chose qu'il va présenter comme une organisation? Ça m'a posé question, difficulté, ça m'a arrêté. Je me suis dit, est-ce qu'on va considérer l'expérience comme un répertoire de cas? Plus mon expérience est grande, plus j'ai de cas en magasin. Si j'arrivais à mémoriser tout cela, j'ai en quelque sorte une bibliothèque de cas dans mon expérience qui me permet d'agir face à la nouveauté de la situation. Est-ce qu'on constitue des types? Est-ce que on constitue des concepts, on construit des concepts? Autrement dit, quelle est la dynamique de genèse de l'expérience? La position, me semble-t-il, de Pierre Pastré est claire. L'organisation de l'activité est conceptuelle, au fond de l'action, la conceptualisation. Cette conceptualisation est opérative. Alors, j'en ai trouvé, pour ma part, je me suis arrêté aujourd'hui à trois caractéristiques de cette dimension opérative. La première, c'est que elle n'est pas nécessairement consciente, cette organisation. Ce qui revient à dire, alors évidemment, en moi ça fait écho, et peut-être en vous aussi, à tous ces gens qui ont travaillé sur le fait que, entre le discours sur l'action et l'action elle-même, il y avait un écart. Et que, par exemple, Pierre Vermeer, je propose une modalité pour pouvoir travailler avec cet écart-là. Yves Clos propose des modalités de la même manière, etc. Ça, c'est la première chose. Elle n'existe pas nécessairement sous la forme consciente. Deuxièmement, et ça en découle, elle n'existe pas forcément sous une forme langagière, discursivisée. Et troisièmement, elle est mobilisée. Et il me semble que dans la présentation de Pierre, et puis il me semble avoir retrouvé ça pour une part dans l'intervention de Marie-France Barotte, elle est mobilisée, j'allais dire, sous trois facettes, pour caractériser les situations, mission de diagnostic, pour agir dans la situation, ce que j'appellerais engagement, à la suite de travaux d'autres collègues, un peu sociologues, comme Laurent Thévenot, par exemple, et puis pour orienter, guider le cours de l'action, sans en perdre le but. Et ce matin, Pierre a beaucoup insisté sur cette dimension, ce qu'on pourrait appeler le contrôle et la régulation. Et il rajoute, cette organisation a deux faces, une face objective, caractérisée par la situation, et une face subjective, ce qu'il appelle un modèle opératif. Autrement dit, le modèle opératif, c'est cette façon que le sujet a de se construire un système de représentation qui va lui permettre de diagnostiquer la situation, de s'engager dans l'action et de piloter son action dans son déroulement. Alors, première chose, il me semble que le modèle opératif n'est pas une routine. C'est-à-dire qu'il y a toujours une dynamique, il l'a souligné, d'ajustement à la singularité de la situation. Le modèle opératif n'est pas non plus une prescription. Il y a toujours une pluralité d'actions possibles entre l'inaccessible, le vol idéal, et le redouté. Et il me semble que ce qui nous rajoute, c'est que le développement des compétences, c'est en fait la transformation de ce modèle opératif que le sujet construit au fur et à mesure de son expérience pour pouvoir gagner en maîtrise des situations, en gagnant en conceptualisation, en montant en conceptualisation. Et enfin, ce développement du modèle opératif, il nous a dit, se fait par l'action, ce que je viens d'évoquer, ce qui ne pose pas de gros problèmes, ce serait un peu ce qu'on pourrait appeler la genèse de l'expérience, par la représentation de l'action et par son analyse. Il rajoute, me semble-t-il, trois choses. Premièrement, il y a une spécificité des activités humaines d'action sur les humains. C'est-à-dire que agir sur de la matière ou agir sur le lien, agir dans l'interaction, pour reprendre le titre d'un ouvrage récent, ce n'est pas n'importe quel type de classe de situation et qu'il y a une spécificité. Et j'étais en écho avec cette remarque quand cet après-midi nous travaillions sur des corpus d'un conseiller pédagogique et d'un enseignant. T2, voilà. Et où on voyait bien qu'il y avait là sans doute une spécificité parce que la dynamique du dialogue vient de la co-construction que les acteurs font en cours d'action. Ce qui n'est pas forcément le cas quand on peut travailler sur des situations inertes, des environnements non dynamiques, comme il a été dit ce matin. Premier point. Deuxième point que je voulais développer dans la fin, c'est qu'il nous dit que le développement professionnel opère tant sur le registre cognitif, et là, de la part de Pierre Pastré, ça ne nous surprend pas tellement, mais aussi sur le registre identitaire, et vous avez peut-être vu comme moi, car je crois avoir vu sur le PowerPoint, ou entendu dans son discours, les termes d'identité en acte. Et j'avoue que ça m'a laissé rêveur, parce que je me suis dit, il y a donc un développement professionnel qui se joue au moins sur deux dimensions, la dimension cognitive extrêmement travaillée par les approches de son invoqué, mais aussi la dimension identitaire. Et du coup, ça pose la question, comment ça s'articule, comment ça joue, qu'est-ce qu'on en fait? Il me semble que nous avons eu plus d'informations, en tout cas dans la matinée, sur le versant cognitif que sur le versant identitaire, et que dans l'après-midi, nous avions des éclairages, notamment sur les contributions identitaires au développement professionnel. Et enfin, il rajoute une dernière chose qui me semble importante pour tous les formateurs, c'est que ce développement professionnel, dans l'action, formation sur le tas, comme il dit, peut être sécurisé, optimisé, facilité, raffiné, je ne sais pas quel est le terme qui convient, en dosant la complexité des situations pour favoriser les apprentissages. C'est-à-dire que les situations sont complexes, certes, mais que l'on peut en doser la complexité pour favoriser la formation, autrement dit l'apprentissage de ceux qui s'y engagent. Alors, à partir de là, je voudrais développer quelques remarques. D'abord, une série de remarques qui vont dans le sens de ce qui ont été annoncés et que je n'ai pas entendu. Première chose, c'est sur doser la complexité. Doser la complexité dans la situation de formation, dans la situation didactique, je dirais, pardonnez-moi, mais je dirais pas de problème. En ce sens que, bien sûr, il y a une grande difficulté pour doser la complexité des situations didactiques et pour permettre les apprentissages souhaités. Mais je dis pas de problème parce que dans la situation de formation est relativement plastique. elle est faite pour apprendre. Donc du coup, on peut jouer sur des tas de choses, sur le temps, sur les acteurs, sur les ressources, etc. Mais dans la situation professionnelle, on pourrait se dire, dans la situation professionnelle, ben, il y a l'urgence de la production, l'urgence de l'action, les élèves sont là, et donc on ne peut pas, comme ça, doser la complexité. Alors c'est là que je voulais évoquer le travail d'un doctorant, Pierre Pastré, donc c'est dans la même ligne, d'un docteur en sciences de l'éducation qui a fait une thèse sur l'interaction de tutelle, c'est dans des ateliers de mécanique, bon, ça peut nous importe, mais autrement dit, c'est dans des situations de travail. Il y a des apprentis mécaniciens avec des mécaniciens chevronnés. Et je vous passe le détail, si cela vous intéresse, la référence est Patrick Cunegel, il a publié un article dans Éducation Permanente à ce propos, il résume bien son point de vue. Ce qui, je retiendrai de ça, c'est bien l'idée que la situation est complexe, et dans la situation de travail, la situation est complexe, et on ne peut rien y changer. Mais qu'une des fonctions de l'interaction de tutelle, c'est effectivement de doser la complexité de la situation pour l'apprenant à l'aide d'un moyen, notamment principal, qui est la prescription et la proscription de certains éléments du travail. On lui dit de faire quelque chose à certains moments, et on lui interdit de faire certaines choses à d'autres moments. Autrement dit, cela suppose que celui qui a la fonction de tuteur, de moniteur, d'accompagnateur, de coaching, de tout ce qu'on veut, celui qui a la fonction de médiation, il est capable d'opérer un double diagnostic. Un diagnostic de la situation pour savoir ce qui est porteur d'apprentissage et un diagnostic de la situation de l'apprenant pour savoir ce qu'il faut lui donner à faire pour qu'il puisse continuer à apprendre. Sinon, on se trouve dans quelque chose qu'on connaît bien, dans certaines situations d'alternance, pas celles que vous connaissez, mais pour ma part, j'ai travaillé sur les systèmes de formation professionnelle, et on sait bien que l'alternance n'a pas toutes les vertus qu'on lui prêterait volontiers. Et qu'un de ses inconvénients, c'est par exemple, lorsqu'un apprenti réussit une tâche, de l'enfermer dans cette tâche, parce que sa contribution devient de plus en plus effective pour l'entreprise, et son apprentissage se réduit au fur et à mesure de l'évolution de la situation. Alors bien sûr, si je suis le modèle de Pastré, il apprend toujours. Mais il apprend toujours une expertise limitée, et non pas l'ensemble du métier qui était le projet d'apprentissage. Ça c'est le premier aspect, l'idée que on peut doser les complexités des situations didactiques, et que l'on peut sans doute aussi jouer sur la complexité des situations professionnelles que les débutants, les novices, les apprenants ont à traiter. Alors, deuxième question qui me vient dans le même ordre, c'est ce qui résulte de ce modèle, c'est qu'on apprend par l'action. On apprend par l'action. Quand on fait, on apprend. Toute action est une occasion potentielle d'apprentissage. Du coup, je me dis, si je réfléchis à ça, si on apprend par l'action et que l'action est dans une situation, on apprend ce qu'il y a dans la situation. Et la question que je me pose du point de vue de la formation, c'est est-ce que c'est suffisant? Est-ce que c'est opportun? Et même plus, pardonnez-moi, mais enfin, bon, nous jouons les arrêts de jeu, nous sommes quasiment hors délai. Est-ce que c'est acceptable? Alors pourquoi je me pose cette question-là? Ben parce que dans la situation de travail, ce que je crois, c'est qu'il y a de tout. Alors bien sûr, dans les situations de travail, il y a le réel du travail. Ça, je veux bien l'admettre. La question que je vous poserai, donc volontiers, c'est est-ce que la formation a pour objet de préparer les gens au réel du travail? Dit comme ça, évidemment, ça a un côté un peu déconnecté de tous ces discours qui nous essayent de nous mobiliser là-dessus. Mais si je développe, permettez-moi de croire que ce n'est pas forcément complètement dénué d'intérêt. La question que je me poserai, c'est est-ce que finalement l'enjeu de la formation, d'une formation d'enseignant comme de toutes les formations, c'est de former au travail tel qu'il se fait, ou tel qu'il doit se faire, ou tel qu'on pourrait le faire? Et il me semble que l'enjeu qu'il y a derrière, c'est comment est-ce que les approches centrées autour de la notion d'organisateur et de modèle opératif, c'est-à-dire centrées autour de la pratique et de l'expérience, comment est-ce qu'elles peuvent prendre en compte la dimension des normes, la dimension des valeurs, la dimension des modèles, la dimension de tout un tas de choses, me semble-t-il, qui sont importantes aussi, que parfois on ne retrouve pas dans l'action que l'on conduit, et dont il me semble que les formations n'ont pas à se désintéresser. Alors permettez-moi de vous citer un exemple exotique, qui est celui des... Vous savez qu'il y a un certain nombre de métiers, peut-être même tous, qui sont potentiellement dangereux. Et nous savons qu'il y a des métiers qui sont particulièrement exposés. Les statistiques de la Caisse d'assurance maladie nous renseignent parfaitement là-dessus. Comme nous savons qu'il y a des métiers particulièrement exposés, il y a eu des recherches sur la sécurité. Et nous avons tout un corps de savoir pour éviter les risques et les accidents dans ces métiers-là. Je pense notamment au métier du bâtiment, par exemple. Et comme il y a un corps de savoir, il y a des dispositifs de formation qui ont pour but de communiquer aux personnes en question toutes les bonnes choses qu'ils devraient savoir pour ne pas courir de risques. Dit entre nous, tout à fait entre nous, mezzo voce et sans enregistrement, nous savons que ces formations sont mises en place. Nous savons qu'elles correspondent assez bien à ce qui devrait être enseigné. Nous savons aussi qu'il y a une mobilisation des acteurs sociaux, notamment des employeurs et des syndicats, autour de ces questions. Et il y a donc des opérateurs qui vont dans ces formations et qui, généralement, apprennent bien ce qu'il y a à apprendre. La meilleure preuve, c'est que souvent, on leur fait faire des exercices, des tests, et que, à la fin de formation, suivant la formule consacrée que nous connaissons bien, le sujet est capable de... Ce que l'on est quand même obligé d'observer, c'est que lorsqu'ils se retrouvent dans les situations de travail, les personnes, de par l'organisation de travail, de par les caractéristiques des situations et de par les caractéristiques sociales des groupes professionnels, bien qu'ils les connaissent, bien qu'ils les maîtrisent, ne mobilisent pas une grande partie de ces savoirs. Alors, il me semble que ça, c'est un dilemme de formateur que pour ma part, j'ai trouvé stimulant en écoutant les présentations d'aujourd'hui. C'est, est-ce que finalement, je dois parier sur l'action comme unique moteur de la construction des compétences des apprenants? Est-ce que, ce faisant, je ne cours pas un certain nombre de risques, de dérives, constituant le faire, l'effectif, en finalement unique étalon de ce qu'on pourrait appeler le développement professionnel? Vous vous doutez bien que la question est redoutable et que donc je me garderai bien d'y répondre. D'ailleurs, on m'a demandé d'ouvrir des perspectives et pas de vous faire un exposé sur la question. Point suivant, réflexion suivante. Pierre Pastret a insisté sur, et le modèle, on le voit bien, insiste sur la pertinence d'un apprentissage par l'expérience. On apprend en faisant. L'action est un mode de connaissance autonome, comme disaient en d'autres temps d'autres auteurs. Le problème de l'expérience, comme je le disais, comme l'action est fugace, le problème de l'expérience, c'est qu'elle est derrière nous. Du coup, il a évoqué l'importance de la possibilité de mettre en discours cette expérience, construction d'un récit, construction d'une intrigue, et une fois ce récit construit, de pouvoir en mener une analyse pour comprendre ce que le récit a raconté, comprendre pourquoi ça s'est passé comme cela. Et je trouvais une position un peu voisine dans ce que Isabelle Vinatier nous présentait du dispositif de, alors je ne sais plus comment vous l'appeliez, co-analyse de l'activité, co-explicitation de l'activité, voilà. C'est l'idée que on a des éléments qui sont passés, on va les transformer en récit, on va les mettre en langage, et on va pouvoir ensuite en faire quelque chose, et que ce qui est crucial dans le propos de Pierre Pastret, me semble-t-il, c'est la dimension d'analyse. Alors du coup, ça, me semble-t-il, ça devient intéressant, parce qu'il nous dit Paul Veyne, qui parle de rétrodiction. Alors, c'est très lointain mes souvenirs de Paul Veyne. Alors, mais s'il y a des historiens ou des épistémologues dans la salle, vous compléterez. Il me semble que ce que dit Paul Veyne, c'est que l'historien travaille avec des traces, qu'il interroge ces traces, qu'il les recoupe, qu'il les confronte au savoir disponible sur la situation, et qu'il essaye de construire une intelligibilité, une compréhension de l'événement, de la situation. Et il me semble qu'il rajoute quelque chose. C'est que cette compréhension que l'on peut établir par rapport aux traces détenues est toujours lacunaire. Et que donc l'historien, pour pouvoir construire, proposer une intelligibilité, a toujours une activité, on pourrait dire, de pari interprétatif. Combler les trous que nous donnent les traces, les documents, pour pouvoir proposer des systèmes d'interprétation. Alors, du coup, je me suis dit, tiens, c'est quelque chose qui pourrait être intéressant à réfléchir, parce que dans toutes ces choses que nous ramenons de l'expérience antérieure, ce qui est peut-être le plus stimulant pour l'apprentissage et pour la formation, c'est pas tant ce qu'on ramène que ce qui manque. Et cet après-midi, dans les deux ateliers auxquels j'ai participé, toutes les deux intervenantes ont insisté sur la notion de trace, en disant, finalement, dans ces dispositifs-là, ce qui étaye, on pourrait dire, la dynamique dans l'analyse de l'activité, c'est le fait qu'il y a des traces. Alors, je crois que c'est un point important, parce que il me semble que là, on a un parti pris méthodologique original, très différent de celui de Vermeersch, par exemple, relativement différent peut-être de celui des instructions au sosie, telles que l'avait développé O'Donne, qui est de dire, il est intéressant, dans la situation d'analyse, d'avoir un élément, alors, pour l'instant, je dirais objectif, entre guillemets, d'avoir un élément objectif qui provient de la situation de référence, de la situation de travail dont on va parler. Alors, ces éléments, ça peut être, j'ai l'impression, n'importe quoi. C'est-à-dire, ça peut être des enregistrements, ça peut être des images, ça peut être des brouillons, ça peut être des croquis. J'ai un souvenir qu'un collègue, Charles Lebar, avait fait des travaux comme ça, sur le design, en utilisant les esquisses que les designers faisaient, les architectes aussi, faisaient pour la genèse d'un projet. Alors, ce qui me paraît intéressant, c'est bien que la trace, elle existe finalement comme, alors je ne sais pas si c'est ça qu'il faut dire, mais je dirais comme un signe. C'est-à-dire que, bien sûr, elle vient du passé, elle est en quelque sorte un fragment de passé transporté dans le présent, mais sa fonction principale, c'est de pouvoir nous guider pour reconstituer ce qui manque. La fonction de la trace, c'est moins d'apporter une preuve de ce qui s'est passé que d'inviter ceux qui l'ont transporté, ceux qui l'ont vécu, à dire, à compléter tout ce qui manque. Et ça, j'ai pensé que c'était peut-être pour ça, c'était pour moi une lueur, peut-être pour ça qu'on pouvait penser que quand on analyse l'action, on progresse professionnellement. Parce que sinon, j'ai un problème. Je ne sais pas si vous le partagerez, mais j'ai un problème. Il y a des gens qui agissent. Ils se retrouvent entre eux, ils en parlent. À quelles conditions le fait d'en parler, ça développe des compétences, premier niveau, je veux dire, ça développe des compétences de communication, d'argumentation, comme le soulignait Anne-Marie dans le groupe tout à l'heure, il y a un moment où on dit « Ah ben tiens, tu argumentes bien sur ton travail ». Donc on voit bien que ça développe des compétences d'argumentation. Mais le fait de bien argumenter ne dit pas qu'on va pour autant agir avec pertinence et efficacité dans la classe. C'est-à-dire que je me dis que les situations de parole développent certainement des compétences de parole. Qu'est-ce qui nous permet de dire qu'elle développe ipso facto ou par des médiations les compétences qui permettent d'agir dans les situations dont on parle. Eh bien, il me semble que ce qu'on vient d'évoquer nous en fournit une idée. C'est parce que le dialogue qui est nourri avec la médiation des traces, qui sont quelque chose qui existe indépendamment de chacun des acteurs, et auquel chacun des acteurs peut se référer de son point de vue, bien sûr, différent, bien sûr, nouant des controverses, des dialogues, des confrontations, permet d'aller plus loin que la conscience qu'on a eue de l'action. Si j'ai une hypothèse sur le développement professionnel à propos des discours, à propos de l'action, à propos, disons-le en des termes qui sont peut-être plus généraux, moins précis, mais plus répandus, à propos des analyses de pratique, je me demande toujours quel est le bénéfice des analyses de pratique. Je me dis, bien sûr, il y a un bénéfice, on pourrait dire psychologique. Si on est beaucoup à se dire qu'on a des difficultés, ben on se sent tout de suite un peu moins seul. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on va agir mieux. Si je participe à la résolution, à la réflexion autour du problème d'un collègue, à quelles conditions je peux être sûr que ça va améliorer mon potentiel d'intervention à moi? Et enfin, si je réfléchis sur ce qui a été mon action en en étant sorti, à quelles conditions je peux penser que, bien sûr j'en aurai un souvenir transformé, mais à quelles conditions je peux penser que dans l'action future, je pourrais agir autrement, différemment? J'aurais pu enrichir, en quelque sorte, mon modèle opératif ou le transformer. Dans quelle, pour prendre les termes de Pierre Pastré, dans quelle mesure pouvons-nous être assurés ou à quelles conditions pouvons-nous garantir que les situations de parole, pour le dire de façon générale, permettent une transformation du modèle opératif, une évolution du modèle opératif. L'hypothèse que j'ai en recoupant avec la notion de trace, c'est parce que c'est pas la situation de parole en elle-même, c'est parce que la confrontation aux traces, ou la confrontation à autrui, ou la confrontation au formateur, permet de penser au-delà de l'action. C'est-à-dire que dans l'analyse de l'action, ce qui est intéressant, c'est de penser plus loin que ce qu'on a fait. Alors ensuite, je voudrais évoquer d'un mot... Je ne sais pas comment le dire, là encore, je suis très prudent dans mes formulations parce que vous voyez bien, j'ai vécu la journée et c'est une élaboration à chaud, donc c'est toujours délicat. J'ai trouvé les interventions très pertinentes et très intéressantes et donc je marche sur des œufs. J'ai trouvé quelque chose de particulièrement intéressant dans l'idée que on nous présentait les organisateurs de l'activité comme étant des éléments qui permettent d'assurer, on pourrait dire, la maîtrise professionnelle. Alors j'ai trouvé quelque chose, alors ça m'enthousiasme, ça me rassure, ça me ravit. J'ai trouvé quelque chose d'encore plus intéressant, me semble-t-il, enfin de plus stimulant, dans l'idée, alors l'idée vient de moi, hein, Isabelle Vinatier n'est nullement impliquée par la chose, mais c'est dans un de ces exemples que j'ai vu ça. Dans l'idée que peut-être les organisateurs pourraient être des obstacles à l'apprentissage. Alors de quoi s'agit-il? De quoi s'agit-il? Il s'agit, vous voyez bien l'idée, c'est que quand quelqu'un a construit un modèle opératif, et que cet modèle opératif, il est cognitif bien sûr, mais ce qu'on sait d'après l'amendement Pastré de fin de séance, c'est que ça a aussi une dimension identitaire. Autrement dit, que non seulement ça permet d'agir efficacement, mais qu'en plus c'est une représentation de soi. On l'a en quelque sorte chevillé au corps. Si moi ça m'évoque un peu Bourdieu aussi quelque part. Alors, si on a ça... Je dirais, il y tient, et je dirais peut-être même plus, le modèle opératif tient à lui, c'est-à-dire que le modèle opératif, il est en nous, bien au-delà de la conscience qu'on en a. Alors du coup, ça marche très bien quand on est toujours dans la même classe de situation. On a la même classe de situation, on a construit un modèle opératif avec des organisateurs de l'activité, on les mobilise, on les raffine, on se rapproche de la structure conceptuelle de la situation, comme dit Pierre Pastré, c'est un développement cognitif, et nous nous réjouissons tous, et il me semble qu'il y a beaucoup de contributions sur ce versant-là. Il se trouve que nos collègues qui font de la psychologie cognitive sont, dans la psychologie du travail, globalement optimistes. Ils nous parlent des situations souvent de développement. Dans le cas évoqué, on avait une personne qui avait construit vraisemblablement un modèle opératif particulièrement efficace pour elle, dans une situation professionnelle, qui change de situation professionnelle. Alors du coup, l'idée qui me vient, c'est celle-ci. Est-ce que ce qu'on a construit dans l'expérience antérieure est toujours un acquis, pour le dire en termes un peu ordinaires? Est-ce que ça pourrait pas être un obstacle? Ce que les sigles m'ont perdu dans... Mais enfin, la personne avait été... Maître E, voilà. Donc, la personne avait été maître E et exerçait maintenant des fonctions de conseiller pédagogique. Et ce que vos collègues ont repéré, moi j'étais tout à fait incapable, c'est que dans la façon dont elle entrait dans l'entretien de conseiller pédagogique, Elle ne mobilisait des choses qu'elle avait construites dans l'expérience antérieure. Parfait. Je ne dis pas que c'est le cas là, mais du coup, ça me donne une idée. Est-ce que par hasard, ce qui a été construit dans l'expérience antérieure ne pourrait pas être un obstacle? Est-ce qu'on ne pourrait pas avoir des situations relativement fréquentes où une des difficultés à maîtriser les situations, c'est pas qu'on ne les connaît pas, c'est ce que l'on sait déjà. Et on retrouve là des choses extrêmement connues, anciennes, hein, autour des obstacles, obstacles épistémologiques qui nuisent à la construction de la connaissance. Alors ce matin, c'était Bachelard et Piaget, mais on pourrait le dire autrement. Il y a toujours l'idée que la connaissance se construit dans un combat contre l'erreur, et à ce moment-là, ce qui était vérité, non pas en deçà des Pyrénées, mais dans l'expérience antérieure, devient inapproprié. Si on suit le modèle, il faut développer des genèses opératives pour adapter le modèle opératif. Peut-être. Dans d'autres cas, on peut se dire qu'il y a peut-être d'autres destins. Et il me semble que notre destin serait de se dire, eh bien, on n'y arrive pas, et dans ce cas-là, on entre dans une sphère ou dans une dynamique qui va être celle de la souffrance, de la difficulté, du fait qu'on n'arrive pas à repérer dans la nouvelle situation ce qui ne marche pas, parce que, entre autres, c'est en soi, dans ce qui est non conscient de la part du professionnel, que se jouent les choses qu'il faudrait changer. Et alors, de ce point de vue-là, ben, je ne suis pas sûr qu'on ait les outils pour agir. D'où ma question de formateur, c'est est-ce que dans certains cas... Pardon, je vais un peu vite. Première chose, c'est... Pierre Pastré, me semble-t-il, et ses collègues nous ont bien montré comment on peut penser la construction, c'est-à-dire le développement. Est-ce qu'on ne pourrait pas avoir des lumières sur comment les modèles opératifs et les organisateurs se déstructurent? Comment ils entrent en dégénérescence? Comment est-ce que les opérateurs s'en débarrassent, hein? Parce que Ricoeur avait souligné combien dans les activités de reconnaissance, la dimension de l'oubli était importante. Nous, on voit l'expérience, et quand j'entends, pas que ici, dans un discours, on voit l'expérience, j'allais dire, comme un stock infini, une accumulation infinie. Est-ce qu'il n'y a pas des opérations, et il y a probablement des opérations, par lesquelles on s'allège? Et dans ce cas-là, est-ce qu'il n'y aurait pas une contribution intéressante au développement professionnel qui ne serait pas à construire, mais à détruire, à oublier, à écarter, à transformer, à rejeter? Je n'ai plus que deux points à développer devant vous, et je vais les développer brièvement parce que je me sens très ignorant. Je vous avais dit que plus j'avançais, plus je marchais en terrain incertain. L'activité est conceptuellement... Pardon ?
Tu disais que tu marchais aux abysses.
Ah oui, oui, mais après le vol à haute altitude et en rase motte, je marche sur des œufs. L'activité est conceptuellement organisée, certes. Est-elle aussi, comme l'a indiqué le papier, l'introduction d'Anne-Marie telle qu'elle était initialement prévue, et comme le reprendra le propos de Françoise Lantôme demain, est-elle aussi désorganisée, désorganisable? Bien sûr, il y a de l'organisation. Mais qu'en est-il des désorganisations? Comment ça marche? On s'intéresse beaucoup plus aux genèses qu'aux crises, qu'aux ruptures. Et je me demande si dans les situations ordinaires, les professionnels que nous rencontrons en souffrance ne sont pas des professionnels qui sont précisément dans ces situations de crise, de rupture, de passage, et qu'il y aurait quelque chose d'intéressant à comprendre sur non seulement les dynamiques d'organisation, mais aussi les dynamiques de désorganisation. Et de ce point de vue-là, on a beaucoup vu la dimension conceptuelle. Et pour ma part, j'ai eu l'occasion de le dire déjà, un grand admirateur du travail de Pierre Pastré. Mais les émotions, les sentiments, peuvent-ils être des organisateurs de l'activité? Vous voyez bien, mais il me semble qu'on en a peu parlé aujourd'hui, ou en tout cas on n'y a pas pensé. C'est pas le propos, c'est pas l'objet de Pierre Pastré. Il nous l'a dit, c'était pas son objet. Fort bien. Mais ça peut être le nôtre, notamment quand nous avons des situations de formation, parce que nous n'avons pas que des sujets épistémiques. Nous avons devant nous des hommes et des femmes de chair et de sang, d'âge, de culture, et divers et variés. Et donc je me demandais, qu'en est-il? Comment prend-on en compte dans une théorie aussi stimulante celle-ci, de la dimension de l'émotion, de la dimension des sentiments, de la dimension du corps, d'une manière générale? Et bien sûr, quand je couple les deux... J'en viendrai à mon interrogation ultime, qui est la plus fragile. Organiser, certes, mais organisateur ou fonction organisatrice ? Je m'explique. Est-ce que si l'activité est organisée, il y a nécessairement des organisateurs ? Je me suis posé cette question. Je me suis posé cette question notamment à propos du débat dans l'atelier qu'animait Marie-France Barotte autour de la notion de territoire. Et on s'est posé la question, est-ce que c'est un organisateur, ça l'est pas un peu, beaucoup, passionnément, etc. Bon. Et puis un certain nombre d'interventions ont insisté sur la dimension de l'activité, qui semblait être un élément extrêmement important à prendre en compte, disons. Alors, je le formulerai comme ça, peut-être simplement pour, en tout cas pour moi, je me suis écrit comme ça pour aider à penser, et je le partage avec vous. Si l'activité humaine est organisée, je me demande si l'activité humaine aussi n'est pas peut-être et avant tout organisante. C'est-à-dire, est-ce que, au lieu d'aller chercher, ou en complément d'aller chercher des organisateurs, il ne faut pas penser que c'est une dimension de l'activité elle-même que d'organiser et de pouvoir commencer à construire par rapport à la situation et par rapport au sujet lui-même un certain nombre d'éléments qui vont lui permettre d'agir, de penser et de vivre dans les situations de travail. Voilà, chers amis, ce que je voulais partager avec vous. Je vous souhaite un bon appétit.